Chers toutes et tous, bonsoir et bienvenue dans Par les temps qui courent. On reçoit tous les soirs des artistes pour une conversation d'une heure. On continue notre série d'entretiens avec des auteurs et autrices dits jeunesse. C'est vrai, c'est parce que c'est bientôt le salon de Montreuil. D'ailleurs, je signale au passage qu'une dispute spéciale aura lieu le 28 novembre autour d'Arnaud Laporte et ses critiques. Nous, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Douzou.
Un tango ? Une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Olivier Douzou.
Un jeu dont on ne te dirait pas vraiment la règle, une ronde dans laquelle on t'invite sans te montrer le pas, mais dans laquelle on t'invite, et c'est là le principal. Voilà ce qui peut qualifier nombreux de vos livres, Olivier Douzou, une invitation généreuse au mouvement. Dans vos deux derniers livres parus, Les Aoussiens et Par ici, tous deux édités par le Rouergue, l'espace du livre est un espace d'aventure. Chaque page offre une multitude de déplacements et de surprises. Lorsqu'on regarde et écoute ici, une autre action a lieu à l'autre coin du livre, là-bas. Chaque déplacement est l'occasion d'une découverte, d'une rencontre, d'un apprentissage. Aussi, nous suivons le plus petit ruisseau jusqu'à ce qu'il rejoigne les bas-fonds marins et nous regardons la nuit tombée sur le potage du grand-père de Pierre. Vous avez occupé et vous occupez toujours plein de places différentes dans le monde du livre jeunesse. Olivier Douzou, vous avez signé de votre plume, de vos crayons, de votre peinture, enfin vous nous raconterez, une soixantaine d'ouvrages aux éditions du Rouergue, aux éditions du Seuil et dans les Six Géniales et chères à mon cœur, édition Mémo. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Si on détaille alors toutes les places que vous occupez ou que vous avez occupées dans ce vaste monde qu'est le monde du livre jeunesse, alors ça fait quoi? Ça fait Olivier Douzou est ou a
alors,
été.
Au départ, dessinateur, illustrateur.
Ouais,
après, je suis devenu auteur le jour où j'ai fini mon premier livre,
ouais.
Auteur-illustrateur même. Ensuite, j'ai eu la chance de me voir confier une maison d'édition, donc le secteur jeunesse.
Directeur.
Directeur d'une collection jeunesse aux éditions du Rouergue. Sans savoir ce que ça signifiait, donc sans formation, sans connaître même le milieu du livre jeunesse, sans avoir même de culture de cet univers-là. Après, qu'est-ce que je peux faire autour du livre jeunesse? Je travaille beaucoup aussi avec le Salon du Livre de la Presse de Montreuil. En tant que, je participe à l'équipe de scénographie, je fais partie de l'équipe de scénographie et voilà,
ça veut dire, pour être un peu concret, ça peut être des mobiliers,
ça
des
peut
endroits
être du mobilier,
voilà, les enfants s'assoient,
voilà,
les
conceptions des expositions, habillage des expositions, voilà, c'est tout ce qui fait que le salon ait une image particulière et puis avec des choses qui se montrent un peu différemment. Je vais un peu partout. Le livre pour enfants m'amène un peu dans tous ces angles-là et c'est je trouve que j'ai la chance, en fait, de pouvoir le faire avec des gens qui me laissent beaucoup de liberté, quoi. Et c'est, j'ai la même liberté quand je travaille pour la scénographie, avec l'équipe de scénographie, que quand je fais un livre. Et ça, c'est important pour moi, la liberté.
Et on imagine que c'est une liberté que vous avez pu offrir ou offrir encore lorsque vous travaillez avec d'autres autrices, auteurs ou illustrateurs en faisant des livres des autres.
Pour moi, le livre, déjà, c'est un espace de liberté. Donc, c'est vrai que moi, je travaille très peu sur, par exemple, sur commande auprès des auteurs et des illustrateurs. Je l'ai jamais fait en fait. Donc, pour moi, ouais, j'entretiens et j'encourage cette liberté justement. Et je trouve que c'est un privilège. Et justement, pour côtoyer et pour occuper plusieurs supports ou espaces dans mon travail, en fait, je trouve que le livre, c'est l'endroit qui permet le plus de liberté, parce qu'on invente ce qui n'existe pas, on invente toutes les règles du jeu, on les contourne. Cette liberté-là, moi, je sais la saisir, je la mesure dans le livre, Et mon objectif, effectivement, c'est l'encourager auprès des auteurs illustrateurs qui veulent travailler aux éditions du Rouergue, par exemple.
Ça passe, cette liberté-là, par attendre qu'un livre soit nécessaire, attendre qu'un livre ait sa raison d'être, pas nécessairement se lancer dans des collections pour pouvoir absolument être là à la rentrée ou au salon, c'est exprimer quelque chose qui doit être dit à ce moment-là.
Ouais, moi je pense que c'est le principe même du dessin. Je crois que quand on dessine, on peut dessiner sans objectif, en fait. Et les enfants dessinent pour dessiner. Il y a plein de gens qui dessinent et qui sont adultes. Et je pense qu'il y a un espace à occuper, qu'il y a un espace de liberté. Je suppose, quand on fait de la musique, quand on compose, on fait quelque chose de nouveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce que le livre apporte de nouveau, en fait. Même quand je dessine moi ou quand j'écris, pour moi, je sais que je fais quelque chose qui n'existe pas encore. C'est rare, les choses dont on ne connaît pas ni le fonctionnement, ni la mécanique, ni l'existence. Enfin, voilà, des choses dont on découvre l'existence comme ça. On a cette possibilité-là qui est vraiment extraordinaire, de pouvoir être des inventeurs.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'évidemment, c'est quelque chose qui se transmet. Ben, on va se lancer dans un livre où une vache peut devenir mâche et éclairer l'infini du ciel. Notre mâche, elle s'appelait Jojo. Elle était très vieille, notre Jojo. Elle était là depuis des lustres, depuis la nuit des temps. Elle avait des cornes dessus, des gamelles dessous, et derrière une queue pour chasser les mouches. Elle était drôlement joyeuse, Jojo. Une nuit, il lui est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Ses cornes se sont envolées, on ne les a jamais retrouvées. Là, 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 Jojo n'était pas très contente. Une mâche sans ses cornes, c'est pas une vraie mâche. La nuit suivante, c'est sa queue qui a filé. On a bien cherché, on ne l'a jamais retrouvée. Là, 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 Jojo n'était pas très contente du tout. Une mâche sans ses cornes et sans sa queue, c'est pas drôle. C'est pas une vraie mâche. Au petit matin, ses gamelles ont pris la poudre d'escampette. On a regardé partout. On ne les a pas retrouvés. Là, 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 pour Jojo, ce fut terrible. Une mâche sans cornes, sans queue et sans ses gamelles, c'est tout sauf une mâche. Le lendemain, ce sont les belles taches de sa robe qui se sont évaporées. On a tout fouillé, on n'a rien trouvé. Ah là, 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 Jojo était très triste. Une mâche sans cornes, sans queue, sans gamelles, sans sa robe, c'est plus du tout une mâche. Puis un jour, plus de Jojo dans notre jardin, envolé notre mâche, on a fouillé partout et on est revenu bredouille. Il faut quand même se dire que la lumière du studio s'est éteinte pendant cette lecture, Olivier Douzou. Mais c'est très bien comme ça, j'ai pas été jusqu'à la fin de cet album-là, dont on peut dire que c'est un de vos grands succès, ou en tout cas un de vos livres. Je sais pas s'il a eu beaucoup de succès, mais il a été marquant pour beaucoup de lectrices et de lecteurs, Jojo la Mâche.
C'est le premier en tout cas, donc c'est forcément le plus important, avec le dernier et le prochain. Mais c'est un livre qui a déjà décidé d'une collection de jeunesse, la collection jeunesse du Rouergue à l'époque. C'est un livre qui a décidé aussi que je pouvais occuper cet espace-là du livre. Et puis finalement, sans a priori, en fait, parce que j'avais aucune idée, je disais tout à l'heure, aucune connaissance de ce secteur-là, enfin de ce milieu-là, on va dire. Et puis ça m'a permis, surtout ce livre-là, de rencontrer beaucoup, beaucoup d'auteurs illustrateurs.
Et vous dites avec un grand sourire, ça a permis quoi toutes ces rencontres?
Parce que moi je connaissais rien, donc ça fait c'est une maison d'édition qui s'est construite comme ça, comme une pelote où chaque illustrateur amenait un nouvel illustrateur qui donnait envie à un autre, et puis ça s'est construit comme ça en fait. Et à partir de cette première unité qui était
Je joue la mâche,
ouais. Et qui était un livre, en plus, c'était un peu anecdotique, parce que moi, je l'avais écrit effectivement pour ma fille, et puis je l'avais montré à un éditeur, les éditions du Royal, qui n'avaient pas de collection à l'époque, et qui finalement ont décidé de le publier, parce que c'est un libraire qui a dit, il faut le publier à tout prix, ce bouquin-là. C'est la librairie de Rodez, en fait, la libraire de Rodez. Et ça existait de manière tout à fait naturelle pour le livre. C'est-à-dire que c'est une libraire qui a convaincu un éditeur, qui a convaincu, ce bouquin, il a trouvé sa raison d'exister avec des personnes finalement qui étaient complètement passionnées par le livre au départ, quoi.
Tout à l'heure, je disais en introduction que pour essayer de chercher une sorte de fil conducteur entre tous les livres que vous avez publiés, Olivier Douzou, publié en tant qu'auteur ou illustrateur, il y a l'idée comme ça d'un jeu dont on nous dit pas la règle exactement, mais auquel on est invité assez joyeusement. Et par exemple, bon, il y a rien qui va dire dans ce livre pourquoi est-ce qu'on a dit la mâche au lieu de dire la vache. Et pourtant, c'est important dans le petit contrat joyeux qu'on va passer avec ce livre-là. Et quand on referme le livre, moi, en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit la mâche plutôt que la vache, sinon que c'est écrit comme ça. Et ça participe de ma joie.
C'est un livre sur la transformation, en fait, ou l'interprétation. Donc,
ou la métamorphose.
Moi, on m'a demandé à peu près 1000 fois pourquoi la mâche. Donc, j'ai dû y répondre 1000 fois parce que la vache mâche, tout simplement. Et c'est un peu les raccourcis que prennent souvent les enfants pour dire les choses. J'ai une nièce, quand elle était petite, elle parlait du feu dentifrice. Mmh. C'était le lien entre l'heure où ça partait dans le ciel et où elle devait aller au lit et se brosser les dents, quoi.
Moi, j'ai petit jama à cette heure-là.
Voilà.
Je vais mettre le petit jama.
Par exemple. Donc, il y a les gamins, ils aiment bien certains raccourcis. Donc, là, dans cet ouvrage-là, il y avait le sens des choses qui étaient déformées puisque les cornes de la vache deviennent autre chose. C'est un livre qui joue sur la transformation. Il y a les lettres aussi c'est tout écrit à la main avec des majuscules un peu n'importe où. Et c'est vrai qu'il y avait des déformations de tous les sens. Et parce que pour moi, ce livre-là, c'était pour moi une ouverture. Je voulais le faire sans a priori. Et je me rends compte que finalement, ce bouquin-là, il parle de métamorphose, il parle de transformation, il parle de disparition, mais il raconte aussi l'amour, suivant l'étage à laquelle l'enfant le place, quoi, en fait. Et moi, j'ai été surpris des premiers retours de ce livre-là, où il y a carrément des mères qui m'ont dit qu'elles avaient appris le deuil, fait le deuil ou appris à faire le deuil à un enfant grâce à cet ouvrage-là. Alors que pour moi, c'était justement un livre joyeux.
Mais parce que ça peut être tout à fait la joie de la métamorphose, ces choses qu'on comprend pas, qu'on observe, qu'on constate, sans trop dévoiler. Mais bon, on va juste dire que les cornes qui disparaissent se retrouvent être une lune dans la nuit noire. Mais ça peut être aussi, par exemple, un corps qui se délite, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une maladie, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qu'on voit plus physiquement, mais auquel on peut penser quand on regarde le ciel. Donc après, ce qui est très beau, c'est la grande ouverture d'interprétation possible.
Parce que c'est la mort aussi, mais c'est surtout la vie qui est aussi une succession de transformations, et quand on est enfant, c'est une succession d'interprétations. Et le livre, pour moi, c'est justement, c'est hors du réel. C'est pour moi, le livre pour enfants est important parce que c'est un espace de liberté déjà pour l'enfant. C'est un espace de anti-pédagogique. C'est un espace où l'enfant va découvrir une nouvelle ligne d'horizon, par exemple. C'est un autre monde, et je pense que quand l'enfant est saturé d'informations qui sont nécessaires, qui sont importantes, d'arriver dans des livres comme ça en se disant c'est possible en fait, et de se laisser embarquer dans des choses qu'il sait pertinemment que ce n'est pas vrai, parce que l'enfant, c'est un être très intelligent déjà, c'est un néo-primitif, c'est-à-dire qu'il sait qu'il sait pas quoi, mais il sait qu'il sait pas encore, et il compose aussi, il apprend aussi en jouant. Et il apprend dans le livre en sachant qu'il ne sait pas tout et c'est génial. En fait, c'est un public merveilleux, l'enfant. Moi, c'est vrai, je trouve que c'est, il nous permet aussi beaucoup, beaucoup, parce qu'il a une faculté à imaginer. Vous parliez tout à l'heure des deux derniers livres faits au Rouergue qui sont sur des plans, avec des plans distincts, parce qu'on sait très bien que les gamins, ils vont chercher tous les plans. Et dans ce sens, comme par ici ou dans la linéarité du livre, ou dans la profondeur, comme avec le livre qui s'appelle Les Aoussiens, où dans la même image, il y a deux images qui superposent, et il y en a une qui semble destinée à l'adulte, avec un discours d'adulte, et une destinée à l'enfant, avec toutes les interprétations et tout ce que veut et peut voir l'enfant, parce que l'enfant est super actif devant l'image.
J'ai trouvé vraiment qu'il y avait quelque chose dans ces deux derniers ouvrages, Olivier Douzou, qui était justement très actif, où l'œil était beaucoup mis en mouvement, où j'avais envie de les lire à la fois très vite, comme si je pouvais bouger en parlant, comme si le fait de parler pouvait presque animer l'image. Est-ce qu'on essaye de les décrire un peu? Je sais pas, prenons Par ici, par exemple.
Mais Par ici, déjà, ouais, c'est un livre qui a été illustré, parce que là, je ne suis qu'auteur des deux ouvrages, et auteur des textes, et par Benoît Audet, et c'est un livre qui raconte le trajet d'une rivière, mais il y a toute une double lecture qui est dans l'illustration.
Voire triple ou quadruple. Ouais, ouais.
Voilà. Où, on se dit, mais qui c'est qui parle, en fait, dans le livre? Et on suit le fil de cette rivière qui vient, bien sûr, en grossissant au fur et à mesure qu'elle se déploie et déplie dans le livre jusqu'à l'océan. Et en fait, c'est à la fin qu'on comprend qui c'est qui parle. Mais ça aurait pu être n'importe qui dans le livre.
Parce que beaucoup de personnes sont en déplacement, beaucoup d'êtres vivants sont en déplacement dans ce livre-là. Donc, quand on entend cette voix à travers vos mots, Olivier Douzou, qui décrit un déplacement, il y a plein de petits êtres dessinés à qui on peut confier cette parole.
Oui,
et il n'y a qu'à la fin qu'on se dit, ah, peut-être que c'était cette eau, ce petit ruisseau qui nous amenait vers les bas-fonds océaniques. Ça, c'est quelque chose qui se dessine, si j'ose le terme, à l'écriture, cette ambivalence-là.
Oui, ça se travaille aussi avec la complicité d'un illustrateur, parce qu'on a deux voix, et dans le livre pour enfants, on a deux moyens de raconter, c'est le texte et les images. Donc c'est tous ces décalages-là qui sont merveilleux, parce que c'est des portes qu'on entrouvre comme ça, et c'est l'imaginaire là, qui va à fond, quoi. Et autant de notre côté que de celui de l'enfant. Et dire qu'il y a deux lectures possibles dans un livre, là, comme on vient
voir
de l'évoquer.
Quatre ou cinq.
Voilà, quatre ou cinq, ça veut dire qu'il y en a peut-être mille, parce qu'il y a mille lecteurs qui ne verront les choses différemment. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'album et dans le livre pour enfants. Et moi, c'est ces livres-là qui m'intéressent. Moi, c'est pas des livres de vérité, c'est les livres où chacun amène un petit peu son expérience et ce qu'il veut voir, ce qu'il veut y trouver, quoi.
Ou ce qu'il ne sait pas qu'il pourrait trouver, ou ce qu'il ne sait pas qu'il voudrait pouvoir dire.
Voilà, moi, c'est un espace, c'est une fenêtre le livre, donc c'est un ailleurs. Donc voilà, je ne mets pas une règle qui ressemble à ce que l'enfant peut connaître au quotidien dans un livre. Pour moi, c'est autre chose, quoi. Et c'est important que ça soit autre chose parce que pour moi, au départ, c'est autre chose.
Et concrètement, pour Par ici, ça veut dire que vous êtes à votre table et vous commencez à forger ce texte-là qui va donner ce livre vraiment d'aventure, quoi, d'aventure de pensée et d'imagination.
Ben oui, parce qu'après je fais confiance beaucoup aux gens avec qui je travaille, que ça soit Benoît Audet pour cet ouvrage-là ou Frédéric Bertrand avec qui j'ai fait beaucoup de livres, hein, beaucoup plus, et qui est illustratrice des Aoussiens, mais moi je considère que les illustrateurs aussi quelque part ils sont très auteurs en fait parce que on s'adresse quand même aussi à des enfants qui s'expriment avec le dessin, qui savent lire le dessin, qui voilà, donc c'est quand même la première expression de l'enfant, c'est le dessin, donc il faut considérer quand même les auteurs d'images aussi comme des gens qui peuvent avoir des narrations.
Absolument.
Et donc moi avec Frédéric Bertrand, le propos c'est aussi de raconter avec des plans différents. Donc forcément, on a un discours, enfin dans le livre, une écriture qui correspond à ce qu'on dit par la forme en fait. C'est-à-dire qu'il y a le grand-père qui est, on va dire, au ras du sol, et puis l'enfant qui a la tête en l'air, quoi. Mais c'est aussi, on parle aussi du livre jeunesse, quoi. Parce que, ça fait sourire, mais c'est vrai qu'il y avait, les adultes sont souvent très mal à l'aise par rapport au livre, parce que...
Qui sont trop ras du sol pendant que les enfants ont trop la tête
en
l'air.
Ouais, parce qu'il y a on décode beaucoup de choses, en fait. On décode nous, et l'enfant décode aussi beaucoup. Et puis l'enfant c'est un déchiffreur. ou un défricheur, je sais pas, mais enfin, il est toujours en éveil, tandis qu'adulte a tendance à être plus paresseux devant l'image fixe, quoi. L'adulte préférera l'image qui passe toute seule, voilà, qui défile.
Puisque vous parlez de Frédéric Bertrand, on va l'écouter dans une archive au micro d'Arnaud Laporte.
Pour raconter une histoire, le texte plus les illustrations, enfin vraiment réaliser un livre toute seule de A à Z, c'est d'abord une image, ensuite les mots viennent s'incruster dans mes images et fabriquer le livre. Mais c'est vraiment très anarchique, un début de livre chez moi. Je pense à des choses, mais avant qu'elles viennent s'étaler sur le papier ou sur la toile, c'est assez laborieux, quoi. Je laisse mijoter et j'y reviens quelques semaines après quand j'ai fait le tour de la question et j'arrive à produire une image ou deux sans trop la retoucher, quoi. Mais elle n'est pas complètement spontanée, quoi. Je n'arrive pas à travailler du tac au tac, c'est assez long avant de se mettre en place. J'ai besoin de faire le tour vraiment de l'image, de l'idée, avant de la réaliser. Le fait de travailler en plus grand ou en plus petit, avec de la peinture ou juste du trait, noir et blanc ou couleur, décollage, enfin toutes sortes de petites cuisines, c'est complètement et délibérément expérimental. C'est vraiment ce qui me fait avancer dans mon travail, quoi. C'est presque même un peu pompeux de dire que ça pourrait être de la recherche, mais ça me plaît beaucoup de chercher une autre façon de montrer les choses.
Il faut oser, je crois, cette idée de la recherche et du laboratoire pour parler de nombreux livres riches et joyeux de littérature jeunesse. Frédéric Bertrand, elle est en 2001 au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture dans l'émission Multipiste. Vous le disiez, Olivier Douzou, non seulement vous signez avec elle Les Aoussiens, mais c'est pas le seul livre que vous avez signé avec elle. Lorsqu'elle dit, finalement, pour moi, le livre, c'est un espace de recherche, est-ce que vous la rejoignez?
Oui. Oui, forcément. bien sûr, pour moi, c'est un espace de recherche parce que, je me suis moi rendu compte que ce qui m'intéressait, c'est de déjà d'écrire des livres de manière différente chaque fois. De
tout compris, dessin et mots.
Ouais. Et pour moi, c'est important de faire quelque chose de nouveau. Ça rejoint ce que je disais par rapport à la nouveauté. C'est comme si j'avais une nouvelle musique et puis de nouvelles paroles, quoi. En fait, c'est ça. C'est chaque fois là, c'est expérimental. C'est embarqué aussi effectivement dans des règles du jeu qui sont nouvelles. Le jeu est super important, hein, dans mon travail. D'ailleurs, justement, la première expo que j'avais fait au Salon de Montreuil, c'était Play. Ouais. Play pour l'idée de la lecture, dans le mot anglais, et puis l'idée du jeu. C'est sur mon magnétophone, il y avait marqué ça, il y avait la touche Play. Et je trouvais ça drôle que ça soit à la fois lire et jouer. Et c'est pour moi le jeu est super important parce que on est des metteurs en scène quelque part aussi quand on fait de la littérature jeunesse, c'est-à-dire qu'on imagine aussi qu'il y a des enfants qui lisent seuls, mais on peut imaginer que certaines personnes aussi puissent lire à leurs enfants et puis qui est, vous savez, le livre il est double, il y a deux côtés, on a l'impression qu'il y en a un qui est destiné à l'un, destiné à l'enfant, l'autre destiné à l'adulte, et puis qu'il y a une ligne qui est soit une frontière, soit un espace de partage, soit un espace où les deux pages se retrouvent.
Vous pensez souvent à ça, vous pensez souvent au fait que les enfants, notamment peut-être dès leur tout petit âge, ils sont souvent accompagnés devant les livres.
Je l'espère, mais j'ai beaucoup échangé avec psycholinguiste qui s'appelle Evelio Cabrera-Para, et c'est vrai que l'espace du livre est très important pour les tout petits, parce que bon, il en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que c'est déjà un espace de rencontre où il y a une double lecture possible.
Et que donc de la confrontation, de la discussion.
Ouais, avec les très très petits, c'est assez incroyable ce qui se passe, hein, parce que c'est presque une triangulation entre le livre et les deux personnes, et que le livre est profilé comme ça pour créer un espace de complicité, ou de un enfant tout petit, par exemple, lit sur la bouche de l'adulte lecteur. En
et fait, ça continue, hein, parce que le tout petit, mais même par exemple des enfants de 2 ans, de 3 ans, continuent à être extrêmement attentifs à la manière dont les lèvres articulent certains mots qu'ils ne connaissent pas. On sent qu'ils ont un plaisir et une curiosité pour ça.
Oui, le livre pour tout petit aussi est intéressant, parce que c'est vrai qu'il est fait... Le livre est conçu comme un espace presque de concentration, quoi. Et là aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les enfants ils sont soumis à un tas d'informations dans la journée, et que là ils ont un espace où ils posent leur regard et puis ils se posent, quoi. C'est la vertu du hocher. Ben, le livre il est encore mieux, parce qu'il a presque la forme qui concentre sur le pied du milieu, quoi.
Et qui accueille, hein. On peut avoir fait mille fois l'expérience d'une bande d'enfants agités devant qui on ouvre un livre et ça fait genre aimant.
Non, mais c'est un aimant, et puis c'est un espace, ouais, c'est vraiment profilé pour accueillir, quoi.
Et quand vous dites profiler, ça veut dire qu'il faut presque le designer, presque du côté de l'espace. Vous faites de la scénographie. Il se trouve que dans un lointain passé, vous avez aussi fréquenté un peu l'architecture. Vous pensez le livre comme un espace qui est designé?
Oui. Ouais, je pense que le livre est comme un espace, ouais. Enfin, c'est pas designé pour moi, parce que le livre, justement, il a un côté complètement obsolète, désuet, quoi, dans sa forme. C'est ça qui est génial, en fait, c'est de pouvoir, à partir de cet élément qui est très simple dans sa mécanique, jouer sur cette mécanique, finalement, sur le sens de défilement qui est quand même merveilleux, quoi. Quand on tourne les pages d'un livre, on a un début, on a une fin, et c'est la vie qui passe entre nos mains. C'est la vie qu'on peut expliquer à un gamin avec un début et une fin, quand même. C'est David Lodge qui dit que ce qu'il y a de merveilleux dans le livre, c'est qu'entre le pouce et l'index de la main droite, on a tout ce qui nous sépare de la fin. Je sais pas si c'est Barnes ou Lodge. Et c'est merveilleux pour ça, d'expliquer qu'un objet puisse à ce point parler de ce qu'est la vie, quoi.
Quand vous disiez que vous discutiez avec un psycholinguiste, ça veut dire que vous êtes allé depuis toutes ces années, Olivier Douzeau, au contact des personnes qui ont forgé d'autres formes de savoir que celui que vous pouvez avoir, ouais, vous.
Moi, je n'ai pas le savoir. Hein.
Vous en avez un autre, vous en avez d'autres.
Non, moi, c'est plutôt des gens qui travaillent sur l'observation. Moi, je n'ai pas de savoir. Le premier livre que j'ai fait pour tout petit, franchement, je savais pas que ça pourrait plaire au tout petit, donc j'ai aucun savoir, et c'est très bien. Franchement, je pense pas avoir assez d'expérience et que j'aurai jamais l'expérience pour savoir ce qu'est un bon livre, ce que sera un bon livre, et en tant qu'éditeur, je devrais le savoir, mais je ne suis sûr de rien, quoi. Je trouve qu'il y a une incertitude qui est très belle dans le livre pour enfants. Il n'y a pas de moyen facile pour faire un livre, surtout pour les tout petits, en fait.
Et par conséquent, vous allez comme ça lire ou discuter avec des personnes dont le métier, dont la vie est consacrée à observer des enfants en train d'apprendre à se déplacer.
J'y vais, mais je suis diamétralement
opposé.
Pas opposé, mais ailleurs. Je suis diamétralement concerné, on va dire.
La manière dont moi je dessine, il n'y a que moi qui peux le faire. Et mais si moi je fais rien, il n'y a rien n'existe. Bon, au-delà de ça, ce qui est touchant dans l'art du dessin chez les dessinateurs, c'est que c'est vraiment, ça leur est vraiment propre, personnel. Il n'y a que eux qui peuvent faire ce qu'ils font, la manière dont ils le font. En fait, c'est marrant, hein, parce que tant que je suis en vie, ce truc-là existera. Et puis après, ça sera fini. Et d'une certaine manière, c'est très stimulant, en fait. Pour moi, en tout cas, le dessin dépasse tout. Il dépasse la vie, la société, etc. Il dépasse même les, si vous voulez, il dépasse les accidents, il dépasse les chagrins, j'ai commencé à dessiner comme tous les petits enfants. Et pour une raison mystérieuse, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire que à l'âge que j'ai, c'est-à-dire la cinquantaine, je fais la même chose qu'il y a 45 ans. J'ai pas évolué, si vous voulez. J'en suis au même stade. Je fais la même chose. Physiquement, je fais la même chose. J'ai la même posture. J'ai les mêmes instruments. Et j'ai presque les mêmes préoccupations, en fait. Donc c'est pour ça que c'est si intimement lié à ma personne. si vous voulez, à ma vie, au déroulé, au déroulement de cette vie-là, et que ça dépasse le reste. Mais j'ai jamais, rien m'a jamais arrêté, en fait. C'est-à-dire ni les ruptures, ni le mauvais temps, ni les... C'était une manie, quoi. Voilà, c'est une manie. C'est simplement une manie.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Olivier Douzeau.
Tu me dis mon amour, plus de 20 fois par jour, que ce n'est pas élégant et très peu ragoûtant. Mais vois-tu ces ballots, je ne suis pas comme il faut. Et je peux pas m'empêcher, à longueur de journée, mettre mes doigts dans mon nez. J'ai malgré moi bien trop d'émoi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez. Mon amour, je l'avoue, j'aime ce doigt de mystère, ambigu, sans tabou. Ce plaisir nécessaire doit rester une affaire solitaire, autrement c'est vulgaire. Pour autant, je le fais pas en secret dans le noir, et l'on me surprend parfois avec ou sans mouchoir, sur scène, à la télé, égaré, quelques doigts dans mon nez. Malgré moi, bien trop de moi à dénicher ces trésors de poussière et d'or pour ne pas céder aux voluptés de mes doigts et de mon nez.
Deux manies, celle de la chanteuse Juliette et celle du dessinateur Blotch qu'on entendait au micro de Romain de Bec de Lièvre dans Par les temps qui courent. Olivier Douzeau, quand vous écoutez Blotch dire que finalement rien n'a tellement changé entre sa plus tendre enfance durant laquelle il dessinait et son âge d'homme de 50 ans, et que c'est pour ça que son trait lui appartient, que c'est pour ça que s'exprime la plus grande singularité, c'est parce que il n'a jamais quitté son corps d'une certaine manière, comment est-ce que vous entendez ça?
Ben, je l'entends bien. Ça me parle. Forcément, parce que moi, c'est pareil que j'ai toujours voulu dessiner. Et vous savez, vers 10 ans, on se cache pas pour dessiner, mais on est le seul à dessiner dans une classe. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui dessinait beaucoup, mais lui, il réservait ça pour ses week-ends parce que la semaine, il avait autre chose à faire. Donc, le dessin a toujours été pour moi quelque chose de, une parole très particulière, et en fait moi j'ai fait tout mon parcours avec le crayon. En fait, c'est l'école d'architecture, c'est mon diplôme d'architecture qui était sur le dessin, l'architecture et le dessin, juste pour dire que j'avais dessiné pendant 6 ans dans mes études d'architecture et que je n'étais toujours pas architecte, ni j'avais toujours pas fait d'architecture. Et après, le dessin, c'est ce qui m'a amené au livre pour enfants. Le dessin, c'est ce qui m'a amené à la scénographie, qui m'a amené à dessiner des objets. C'est tout ce qui me plaît, c'est le dessin. Mais je crois que Blotch, il a forcément raison. Quand on dessine, c'est déjà qu'on a une volonté d'inventer quelque chose d'autre. Donc on traverse forcément, on est dans un monde à part. Et je crois que dessiner, c'est... c'est vouloir inventer une autre réalité, simplement. Et on a ce pouvoir-là, et c'est un pouvoir énorme.
Vous dessinez beaucoup, je veux dire, en dehors d'être au travail, précisément, pour toujours. Un projet.
Ouais. Ouais, toujours. J'ai toujours des carnets sur moi, et je dessine énormément, dès que je peux. Toujours. Et ça fait... J'ai même arrêté de jouer au rugby pour dessiner quand j'étais en terminale. Et pourtant, j'aimais beaucoup le rugby et j'avais négocié ça avec mes entraîneurs pour pouvoir dessiner plus. Et pour moi, et mes parents m'ont aussi encouragé dans le dessin, justement, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que, justement, mon père n'avait pas eu les moyens, ses parents n'avaient pas eu les moyens de lui offrir... des études de dessin qui étaient un peu surnaturelles à l'époque. Mais donc moi j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que ça, mon dessin a été validé très tôt et finalement ça m'a permis, je pouvais dessiner, faire des caricatures à un moment, donc j'étais le roi de la piste dans les agences, hein, forcément, parce qu'en gros quelqu'un qui m'emmerdait, je le dessinais, je le punaisais au mur, donc et ça donnait un pouvoir énorme. Et le dessin m'a permis comme ça, c'était ma voix, le dessin.
Oui, j'allais dire, encore vous en parlez comme une sorte de langage, en fait.
Ouais, c'est une voix, et quand j'ai écrit Jojo Lamache, c'est devenu un livre, le jour où je me suis dit, j'étais décomplexé avec les mots, parce que les mots, moi ça m'intéressait pas, moi j'ai pas lu un bouquin avant ma terminale, et encore j'ai lu un bouquin, je lisais les lectures obligatoires à l'école, et j'aimais pas la lecture parce que c'était obligatoire. Mais le jour où j'ai dû arrêter de lire obligatoirement, mais c'est là où je me suis balancé dans Pérec, les gens qui faisaient les choses les plus expérimentales, comme Calvino, Toulouse Lipo et tout ça. C'est pour ça qu'aussi on me dit que, mais ça rejoint un peu ce que votre question tout à l'heure, est-ce que ce sont des expériences et les livres? Ouais, parce que Lou Lipo, ça naît, et moi j'étais proche aussi de Lou Bapo, des gens comme ça.
C'est quoi Lou Bapo?
Eh ben, l'ouvroir pour Lou Lipo, mais appliqué à la BD, quoi. Et c'est vrai qu'il y a chaque fois la manière de raconter, c'est une expérience de récit, comme j'espère que c'est à l'autre bout une expérience de lecture.
Cette langue dont j'use, je me suis aperçu en fait que pour un délire comme je rêvais d'en écrire un, en fait, était presque insuffisante. Alors je me suis mis, moi, à inventer mes mots. Je sais pas, je disais par exemple l'autre jour, enfin j'écrivais parce que je ne parle pas San Antonio, qu'il arrivait d'une allure chasseur alpienne.
Mais par exemple, galimafrage, lichtrogne.
Lichtrogner, ça veut dire boire. Il y a une sonorité du mot. Il y a le litre, il y a la trogne, il y a liché, vous comprenez? Je voudrais donner aux étudiants, à la jeunesse de mon pays, cette espèce de besoin de faire des gosses à la langue française.
C'est mon pot, mon poème que je veux éditer. Ah, je l'ai, mon popo, mon popo, mon pommier. Oui, mon pot, mon poème, c'est à propos d'un pommier. Car je l'aime, mon popo, mon pommier. Il donne des poèmes, mon popo, mon pommier. C'est pour ça que je l'aime, la popome au pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème sur la peau, la popome au pommier. Et ça vaut bien le poème que je vais éditer.
Voilà deux voix pour continuer la conversation, Olivier Douzeau, celle de Raymond Queneau en 1988, qui dit un poème, et celle de Frédéric Dard 20 ans plus tôt en 1968, et en les écoutant tous les deux parler du langage, de ce jeu-là, je pensais à un Buffalo Bell, j'ai ressorti Buffalo Bell sur la table du studio, parce que Buffalo Bell, il y a des manières de substituer comme ça des fins de mots, des milieux de mots où le « il » devient « elle », le « elle » devient « il » évidemment pour éventuellement réfléchir à nos identités, au genre dans le langage, à certaines prisons que peuvent être certains mots et certaines portes ouvertes que peuvent être d'autres mots. L'amour des mots, il est arrivé après cette espèce de condition presque naturelle d'être dessinant.
Oui, c'est arrivé après. C'est arrivé à partir du moment où c'était pas le dessin n'était pas noté et justement c'était dans les marges quoi que je dessinais, et quand justement le texte est devenu dans les marges, c'est là où ça m'a plu en fait de jouer pas forcément avec les mots, mais j'adore les mots, j'adore jouer avec, et c'est vrai que j'adore jouer avec les expressions déformées, c'est déformé et pour reformer autre chose, c'est un travail pas de destruction, c'est un travail de construction, mais autrement.
On revient à la mâche finalement et à Jojo.
Ouais, mais beaucoup, hein, forcément, et c'est de transformation. Hein, Buffalo Bell, c'est ça en est l'exemple, c'est on va dire changer les ils et les elles, c'est un peu déstabiliser le lecteur. Et j'avais fait l'expérience dans un salon à Bastia, la BD à Bastia, un salon de BD, où j'avais fait ça en diaporama. Et c'est vrai que en boucle, cet ouvrage-là, présenté comme ça, on avait une première lecture qui déstabilisait complètement, une deuxième lecture où on commençait à comprendre les nouveaux sens des mots, et la troisième lecture où on commençait à s'adapter, notre oreille commençait à s'adapter à de nouvelles sonorités. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que la manière de raconter correspond au sujet aussi. C'est un sujet sur l'identité, l'acceptation finalement de formes qui sont pas telles les canoniques en fait. Et ce livre-là, il m'a plu parce que, ça m'a plu de le faire parce que je savais que ça allait accrocher dès la première lecture et qu'il fallait y revenir en fait.
Accrocher voulait dire pas forcément adhérer, mais accrocher, ouais. déranger, rendre l'oreille,
ouais.
En fait.
Ouais, ça allait déranger. Ouais.
Petite, j'avais un vrai penchant pour les lassos, les colts et les fusels. Sur mon cheval à bascule, je me faisais des phalem, j'étais cow-boy dans mon western vermicile. On m'appelait Annabelle, je m'appelais Buffalo Bell. À cet âge-là, pas de père elle, si tu préfères elle à il ou il à elle. Tout le monde trouve ça gentelle, un jeu puérel, un simple babel, pas de quoi se faire de belle, etc. etc. Donc on sent bien que dès le départ, il y a un enjeu presque révolutionnaire, Olivier Douzou. Tranquille, mais quand même.
Ouais, modéré.
Oui, modéré, mais quand même. C'est-à-dire que quand on bouge tout ça, tous ces repères-là, ben on se rend bien compte que ça bouge tous les repères.
Ouais, mais c'est l'objectif, en fait, de dire qu'avec de nouveaux repères et de, finalement, un nouvel angle, on pouvait je dirais même pas accepter, je veux dire, être parti, être acteur de tous ces changements et être plus libre nous-mêmes, être regarder les sujets avec beaucoup plus de liberté aussi, et qu'on est coincé quelque part, ça veut dire quoi, et que finalement le livre, c'est vrai pour moi, le livre c'est un espace de liberté. Avec ce livre-là, moi j'ai écrit à ma fille qu'elle était libre. Elle était libre d'être il ou elle. Et pour moi, il y avait rien de mieux qu'un livre. Je lui ai donné ce livre une fois qu'il a été réalisé. Elle m'a dit merci papa. Et elle l'a oublié dans mon bureau. Et je trouve ça super bien parce qu'elle était encore plus libre.
C'est si beau.
Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'étais complètement mouchée. J'ai décidé de prendre l'air. J'ai rencontré un mouton qui se prenait bourrindé, qui bannit. Moi aussi, je suis mouchée. Moi, génie. Puisqu'on est mouchée, il n'y a qu'une chose à faire, aller trouver le grand bouchoir. C'est comme ça que l'histoire a commencé. En chemin, on a rencontré aussi un dé de clown qui nous... qui nous a nié qu'il avait perdu l'inspiration et qu'il aidait mouché. Il n'arrivait plus à rire ni à faire des varses. On lui a nié « Viens avec nous !» On bat Gergé le grand bouchoir et il nous a suivis.
Il est irrésistible ce livre dont Jeanne Aléos lit valeureusement le début. Et je dois dire que Jeanne Aléos n'est pas du tout enrhumée, Olivier Douzou.
Oui, mais c'est courageux.
Mais c'est courageux, ouais. Hein, quand même, de faire ça pour la radio. Puisque ce qu'il faut dire, c'est que tout l'intérêt, à mon sens, de ce livre-là, outre en plus sa très grande qualité plastique, son grand humour, etc., c'est la langue française. C'est le fait que tout ce qu'on entend prononcé par la voix de Jeanne Aléos est profondément... Et phonétiquement écrit, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'invente rien, elle n'a pas de nez bouché, etc. Vous arrivez à lire ce livre-là sans rigoler ?
Je le lis pas, parce que je lis très rarement, je préfère écouter les autres. En le faisant, c'était drôle à faire. C'est dans la tête qu'on fait les mots, on mélange les lettres. Mais c'est comme c'est très on va dire intérieur à au crâne, ça ressemble vraiment à un rhume quand on écrit ces mots-là. Et puis l'enjeu de ce bouquin, c'était de doubler les sens en fonction justement de quelque chose qui est super ordinaire, c'est le nez bouché, quoi. Et donc voilà. Après, c'est un exercice. Moi, je me suis bien marré, voilà, l'écrire. Ouais.
Et c'est un rire dans ces cas-là qui est un rire intérieur, qui est. Vous dites finalement, c'est presque un son que j'entends dans ma tête et que je peux retraduire.
Forcément, de toute façon, on a quand on fait ces bouquins, on ne connaît pas nos lecteurs, donc, mais on imagine tous les possibles qu'il y a. Avec ces bouquins-là, et c'est vrai que moi au départ, je me suis dit, est-ce que c'est pour adulte, est-ce que c'est pour enfant, je sais pas trop. Et...
C'est un peu pour les deux, comme les ouais, très bons livres jeunesse, non?
Oui, parce que oui, enfin, je sais pas si oui, mais c'est visiblement pour les deux, parce que c'est même les familles qui le lisent. Donc après, moi, c'était surtout de faire l'histoire en miroir de cette histoire de Gogol qui s'appelle Le Nez, qui où le major Kovalyov perd son nez et perd la face par la même occasion. Et j'ai le même début, la même fin que lui, sauf que je fais la trajectoire de ce nez qui est bouché. Et c'est une histoire qui a eu une belle histoire aussi, parce que c'est, il y a eu le prix au Salon du Livre de Montreux qui a déclenché des scénographies. Et puis voilà. Et puis c'était aussi publié aux excellentes, à l'excellente maison d'édition Mémo. Donc voilà, non, c'était une très belle exercice en fait. Et puis c'est pas la récompense en soi qui fait plaisir forcément, mais c'est de dire aussi que ces ouvrages ils sont primés, alors que par exemple dans le jury il y avait des professeurs de français quoi. Et je trouvais que c'est bien qu'on me dise quelque chose à laquelle j'étais pas du tout préparé, en particulier quand on m'a dit que c'était bien, que ça permettait aux enfants qui étaient dyslexiques d'être décomplexés. Et là, c'était une professionnelle, justement, qui le disait. Et moi, je trouve que c'est bien aussi que on sache pertinemment que ces bouquins de fiction ne sont pas une vérité. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une solution. Il y a plein de manières de s'emparer des livres, parce que ce sont des espaces, nous, dont on ne maîtrise pas l'écho, en fait. Et quand même les premiers retours sur ce livre qui était très positif, moi m'ont toujours surpris quoi.
Parce que?
Ben parce que je me l'avais envoyé aux éditions Mémo, je me suis dit moi peut-être que ça va pas leur plaire et tout ça quoi. Et puis c'est allé très très vite la publication et voilà après parce que il y a quelques fois bon c'est vrai qu'il y a Pinocchio qui arrive dans le livre aussi donc c'est il y a des moments c'est un peu adulte quoi il y a voilà parce que c'est puis tout est passé finalement donc finalement il y a que moi qui ai vu des choses qui pouvaient être dérangeantes pour les adultes donc c'est très bien ça montre qu'on maîtrise absolument pas tout quoi.
Non seulement vous dites que vous ne maîtrisez pas l'écho, mais que vous ne connaissez pas vos lectrices et lecteurs. Est-ce que vous allez à leur rencontre? Est-ce que vous vous souvenez comme ça, en dehors de votre fille qui oublie son bouquin dans votre bureau, de moments de discussion et d'échange avec des enfants autour de vos ouvrages, Olivier Douzou?
Ouais, bah oui, forcément, parce que quand on est auteur illustrateur, bon, moi je me déplace très peu, mais on a pu avoir affaire à faire des rencontres dans des classes, dans des salons. Et moi, c'est toujours ce qui m'étonne. Toujours, c'est comment les enfants peuvent déclencher tout ce qui peut se déclencher à partir des livres, ce qu'ils sont capables d'imaginer. Et c'est l'objet premier, c'est de leur donner, voilà, leur entrouvrir un espace et puis qu'ils s'en emparent. On est toujours surpris aussi de la manière dont les enfants ou les grands, les plus grands, parce que c'est une littérature qui intéresse beaucoup aussi un public adulte. Comment les enfants les plus grands deviennent acteurs avec ces livres-là. Je pense que c'est, quand on écrit un texte et une pièce de théâtre, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et là, je pense que nous, on est un peu comme ça, on est toujours surpris de voir comment ça se déploie. Nous, on fait des boules de papier, là, comme ça, qu'on froisse. On les jette et puis elles se déplient de 10 000 façons différentes et c'est tant mieux quoi. C'est ça la liberté, ça veut dire que le livre il remplit son rôle finalement d'un bout à l'autre.
Et vous aimez bien être à l'endroit de celui qui jette la boule froissée quoi. C'est cet endroit-là qui vous plaît.
Ouais, parce que justement là on croit que tout est fait, tout est plié.
C'est le cas de le dire, tout est bien froissé.
Et ça se redéplie. Miraculeusement, c'est pour ça qu'on est toujours surpris des appréciations de chacun sur nos ouvrages. Ce sont des histoires qui continuent. Et comme là aujourd'hui on parle de Jojo Lamache, ça fait 27 ans, mais cette autre manière d'exister, c'est aussi la durée. Et le livre, quand il dure comme ça, c'est merveilleux, quoi. Mmh. C'est la première vocation quand même du livre, de faire durer l'histoire. Aujourd'hui, c'est une vocation qui est assez contrariée, mais quand je vois qu'on parle encore des bouquins qui ont 25 ans, que ce soit ceux-là ou d'autres, ça me fait super plaisir. Ouais.
Vous voulez dire contrarié, pourquoi ?
Parce que la littérature jeunesse est actuellement très éphémère, quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup, il y a une grosse production aussi.
Et donc puis, gros remplacement en librairie.
Ouais, voilà, gros turnover. Et puis c'est comme ça. C'est parce que l'époque est comme ça. On va pas à l'encontre. Moi, j'ai toujours le même plaisir à faire des livres. Et pour moi, ça restera mon support idéal parce que j'ai toujours envie de me servir de ce support pour raconter, pour construire des choses, quoi.
Quand vous dessinez du mobilier pour ce salon du livre de Montreuil, ou quand vous dessinez d'autres choses, le livre n'est jamais loin. Enfin, je sais pas comment dire, vous avez très envie d'y retourner très vite, ou le plaisir est...
Mais j'ai envie de raconter des choses, en fait, même quand je dessine des objets. Quand je fais une illustration, j'ai envie de raconter quelque chose, quoi. C'est comme ça. Le livre est une super école aussi pour structurer les choses, les manières de raconter, parce que on a quand même il y a une architecture à l'arrière d'un livre, il y a une construction, il y a un rythme, il y a une manière de poser les éléments essentiels, d'entrer, de sortir. C'est vrai que ça ressemble vraiment à l'espace, hein, le livre.
Après, cela vous prend du temps?
Ça dépend. Il y a des livres qui m'ont pris une demi-journée, il y a des livres qui me prennent une infinité de temps. Il y a des livres que je ne ferai jamais, il y a des livres auxquels j'apporte ma contribution un peu tous les jours, mais qui ne sortiront jamais non plus. Donc
les livres que vous ne ferez jamais, évidemment, c'est cela qui attire ma curiosité. Ça veut dire que quoi, vous y rêvez, vous y pensez, sont des livres...
Non, c'est des livres que j'ai fait, que j'ai pas envie de poursuivre, que j'ai pas envie de faire. Je pense que il y a plein de disciplines où on peut avoir ce sentiment-là de pas vouloir faire exister quelque chose, tellement on fait exister par ailleurs, quoi. On se dit, bon, ben là, je suis à 80% d'avoir fini, et puis j'ai pas envie d'aller plus loin, ouais. Parce qu'on n'est pas peut-être convaincu, peut-être, effectivement, qu'on n'a pas envie de ça, quoi.
Mais quoi, manière de le garder pour soi?
Non, parce qu'on juge peut-être qu'il est bien comme il est à 80%, et il est mieux que ce qu'il serait à 100%. Moi, ça m'arrive, j'ai quand même pas mal de projets que je n'ai pas menés à terme, parce qu'aussi, c'est des projets qui étaient une période qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Et puis voilà, j'estime que même dans ma construction personnelle, ils sont à une autre époque, quoi.
Trop tard pour eux.
Trop tard, tant pis pour eux.
En ce qui concerne la formation du jugement de l'enfant, en matière esthétique et artistique, je crois qu'il y a de jugement que par rapport à soi, en cette matière-là. C'est-à-dire que l'enfant, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à certaines révélations pour lui-même, qui sont des révélations subjectives, et que dès qu'on commence à parler de culture, de sociologie, d'histoire, de la culture, etc., à ce moment-là, eh bien, on entre peut-être dans la création explicative, rassurante, plus ou moins réelle, etc. Mais moi, je suis persuadé qu'un enfant sent les choses et que, de toutes les façons, je préfère, si je dois choisir, entre une compréhension logique et une compréhension émotionnelle, donc ressentie, sentimentale, je préfère la compréhension sentimentale. Alors, dans mes livres, il y aura toujours, enfin, dans les livres que je publie, où que ce soit, je crois que je donnerai la primeur à l'émotion. C'est-à-dire au sentiment qui dépasse les mots, qui va derrière les images et derrière le sens des mots.
C'était François Ruy Vidal en 1973, parler de la formation du jugement de l'enfant. Alors évidemment, il y a plein de choses qui ont été dites, prononcées et pensées depuis 1973, mais l'idée de plusieurs compréhensions et d'opter pour une sorte de compréhension émotionnelle ou compréhension sensible, est-ce que vous diriez que vous êtes un peu de ce côté-là, Olivier Douzon?
Oui, enfin oui. À partir du moment où je suis très conscient que je maîtrise absolument rien de la réception. Voilà. Pour être simple, c'est je suis plutôt dans le sensible. Ouais. L'émotion, oui. Enfin, il distingue, lui, j'ai pas bien entendu s'il distinguait émotion sensible.
Non, je crois qu'il en fait plutôt une opposition avec les questions de la compréhension rationnelle, de la formation
rationnel. Non, mais voilà, c'est moi, je suis dans l'émotion, le sensible. Moi, le rationnel, il existe pas pour moi dans le livre pour enfants. Vous savez, dans le livre pour enfants, ce qu'on fait, c'est un apesanteur. Hein. Il y a pas de gravité dans le livre pour enfants. Donc, il y a pas de logique.
Il y a jamais de logique.
Bah, il y a la logique, sa propre logique.
Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas pareil.
Non, voilà, non, mais c'est vrai que dans le livre pour enfants, regardez, vous avez Babar, il a un costume vert, il se dresse sur ses pattes arrière, alors qu'on sait que c'est impossible pour un éléphant. Il n'y a aucune logique, c'est pas rationnel du tout. Et il existe toujours déjà, et puis et l'enfant ne se pose pas la question de savoir si un éléphant peut rester debout comme ça aussi longtemps, pendant près de 50 ans quand même, même plus. Et il est dans l'émotion complète, quoi. Il dépasse tout ce qu'il sait, et puis voilà, je pense que même on est presque dans un rapport antipédagogique, quoi, avec la littérature jeunesse.
Vous avez donc fabriqué beaucoup de livres jeunesse, vous avez aidé à en penser, à en fabriquer d'autres, Olivier Douzeau. Est-ce que vous vous souvenez d'une lecture d'enfance comme ça, d'album jeunesse qui vous est marqué?
Ben moi, je suis né en 1963, donc les médiathèques, quand j'avais l'âge de lire des livres jeunesse, elles n'existaient pas, quoi. Max et les Maxi Monstres, ça n'existait pas. Donc ça m'a permis d'arriver jusqu'à 30 ans sans connaître le livre, quand même. Deux livres de chevet. En fait, il y en a un, c'était Jojo Lapin de Beaton, et l'autre c'était La Vache Dondon de je sais pas qui, c'est deux bouquins parfaitement, enfin il y en a un qui est connu, Jojo Lapin, je crois que c'est connu, et ce qui m'a permis de réunir toute ma bibliothèque d'enfants dans mon premier livre en faisant Jojo la Mâche.
Bravo.
J'ai réuni les titres, voilà.
Bravo.
Et synthétisé.
Un grand merci Olivier Douzeau, cette heure est passée comme ça.
Merci à vous.
Vous signez encore la scénographie du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil qui va donc ouvrir le 27 novembre. Je rappelle que le 28 novembre, autour d'Arnaud Laporte, on parlera aussi de littérature jeunesse et qu'on peut réécouter Anaïs Vaugelas qui était avec nous la semaine dernière. On mettra toute la bibliographie sur le site internet.
Rocks are buried beneath tons of earth to become diamonds. With the gift of the sunlight, the kudzu vine goes climbing. Instruments play, songs brought forth from the minds of their makers. These vibrations.
Et je rappelle les deux dernières parutions aux éditions du Rouergue par ici, avec des illustrations de Benoît Audet, et Les Aoussiens avec des illustrations de Frédéric Bertrand. À la prise de son, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, extraordinaire lectrice de ce soir, Marianne Chassor, Romain Debecq de Lièvre et Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast via les bonnes applications. Il est bientôt 22h. Très belle soirée sur France Culture.
We pray what we see and we hear might be ours for the taking. We rise every day and we will till our golden star bursts. We open our hearts and say, Lord, do your best, do your worst.
place our hands on the faces of our mothers. We do what we can to strike fear from the hearts of our brothers.